C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena.
Ça commence à sentir l'automne, mesdames, messieurs. On est rendu au mois d'octobre. Alain Mekena, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Alors aujourd'hui, on va avoir, tiens, un invité intéressant, un sujet dont on parle pas souvent, mais qui est beaucoup en ligne avec les nouvelles technologies, avec ce qu'on voit dans les autos. Donc des gens de Québec.
Oui, une compagnie qui s'appelle Ledartec. On prend un pas de recul, n'est-ce pas? Ensuite, on prend un pas vers l'avant. Ensuite, on fait un pas à gauche. Ensuite, on fait un pas à droite. Comme je m'en vais quelque part avec cette phrase-là.
Oui, d'accord. J'attends. J'ai un point d'interrogation.
On va parler de voiture autonome parce que le système que bien des gens connaissent d'autopilote de Tesla. Oui. Serre a été présenté sur scène la semaine dernière par Elon Musk sous la forme d'un robot humanoïde qui peut se déplacer lui-même et qui a fait quelques pas de danse.
D'où
sur
le
scène.
Pas en avant, le pas en arrière, le
voilà.
Pas de côté.
Il n'a pas fait le boogie-woogie pour autant, mais c'est quand même effectivement un robot là de forme humaine, mais entièrement évidemment automatisé et animé par le système d'autopilote. Et il y a des leaders là-dedans, des radars, pas qu'à l'affaire. Ledartec, c'est une compagnie de Québec qui fabrique des composants. Ils font entre autres un bloc qui rentre dans le phare des véhicules pour permettre la conduite, des systèmes de conduite avancés comme celui-là. Donc, on va faire le point sur la technologie.
On va en parler, effectivement. En essai routier, tiens, je me promène parce que c'est les derniers relents du beau temps. Je suis en Jaguar F-Type cette semaine. Modèle qui est arrivé en 2014, les premiers.
J'allais te demander comment vieillit la F-Type, parce qu'elle a quand même quelques années, là.
C'est correct, mais je vous en reparlerai tantôt. Jaguar, ça demeure toujours une expérience assez unique. Mais il y a des modèles qui vieillissent moins bien que d'autres. Mm-hmm. Puis ça, on en reparlera. De ton côté, t'as quoi, toi, sur la route?
Moi, j'ai essayé un Cadillac XT6. Et là, vous dites XT quoi? Je dis oui, XT6. C'est comme si une Cadillac de ville avait eu un enfant avec un Cadillac Escalade il y a de cela quelques années. Et ça donne ça. VUS intermédiaire, bon. On en reparle tantôt.
D'accord. Puis évidemment, pour commencer, ben on a nos nouvelles. Parle-nous de tes infos du matin, toi.
Ben, j'ai une petite surprise parce que je l'attendais pas, mais Chevrolet a annoncé cette semaine qu'ils allaient augmenter la cadence de production pour la Bolt, la petite voiture électrique.
Ouais.
Pas seulement ça, General Motors laisse miroiter une importante baisse de prix du prix de détail, en fait, de la Bolt. Là. Une des petites voitures électriques de bonne autonomie, et ça, c'est un détail important, qui est déjà parmi les plus abordables sur le marché. Le prix de la Bolt est passé aux États-Unis de 37 000 $ américains à 32 500 $ américains au courant de l'été. Qui vient de se terminer. Puis qui
et on n'a pas eu ce rabais-là au Canada.
Non, on est un peu jaloux.
Exact. Faut-il bien le mentionner?
Faut talonner General Motors du Canada. Selon la cadence de production actuelle, GM prévoit qu'elle aura assemblé environ 44 000 Bolt cette année, en 2022. Sa cible de production pour 2023 sera quand même pas mal plus élevée à 70 000 exemplaires. Donc, on parle quand même... On n'a pas doublé, mais ça s'en va dans ce sens-là. Écoute, c'est quand même quelque chose, parce que la meilleure année de vente de la Bolt a été enregistrée en 2021, donc il y a 2 ans, et il s'en est vendu un peu plus de 24 000. Et après ça, ben il y a eu l'hécatombe qu'est la pandémie, donc je sais pas si ça a affecté, tu sais, l'espèce de courbe de croissance de popularité de ce véhicule-là, mais on va savoir ça l'année prochaine. Cela dit, c'est pas la seule bonne nouvelle pour les amateurs de véhicules électriques. GM veut accélérer la réorganisation de l'usine où sera assemblée la version électrique de sa camionnette Silverado.
OK.
La très laconiquement appelée Silverado EV. la camionnette électrique devrait être mise en marché quelque part en 2023, mais on risque de la voir sur nos routes plus rapidement et en plus grand nombre que prévu. Donc, pour les gens qui attendaient ce modèle-là et en version électrique, ils vont peut-être attendre moins longtemps que prévu. Le G bémol, là, la production, le G bémol, on s'entend, la production du Hummer EV sera mise en pause le temps de réoutiller l'usine. Là, le Hummer EV, ça en est vendu 8, je pense. C'est pas bien grave.
Non.
Il s'en est plus que ça, en fait.
Puis là, il s'en est vendu un petit peu plus que ça. C'est là, la chose, c'est qu'on a dépassé le 90 000 commandes et là, GM a dit wow.
Ouais.
Parce que là, au rythme, on est capable de les produire. Vous allez avoir le vote dans la prochaine génération, dans 3 ans. Fait que là, on a dit bon, on arrête tout ça. Et là, pour le moment, on peut aller sur le site, mais on peut pas en commander.
C'est un véhicule décadent, c'est tout ça que je voulais dire du Hummer, qui est de toute façon l'espèce d'aura de cette marque-là. Il va y avoir d'autres modèles qui vont être aussi assemblés un petit peu plus vite, ou en tout cas sur l'échéancier prévu, dont le Cadillac Lyriq, qui est le petit VUS haut de gamme, tout électrique de
que
Cadillac.
Que j'ai bien aimé, je suis allé au lancement, j'ai bien aimé, surtout pour le prix. Moi, ce qui m'a surpris,
c'est
qu'on réussisse à vendre ça à 70 000. Quand on regarde ce qu'il y a à 70 000 sur le marché en ce moment, le Lyriq, tu dis, attends un peu, on en a beaucoup pour le prix. C'est pas donné, 70 000, on s'entend tous là-dessus. Mais on est vraiment allé dans le luxe. Bon, on a travaillé fort pour garder ça dans des barèmes, disons, réalistes.
Ouais. Bon, on commence à voir un peu arriver toutes les promesses que GM a faites, parce que, bon, en plus, le Lyriq, qui va être produit en plus grande quantité que prévu d'ici Noël, donc ça s'en vient assez rapidement,
ouais.
Les Chevrolet Blazer EV et Equinox EV vont se joindre au programme comme prévu d'ici un an environ, d'ici l'automne 2023.
Et que les propriétaires de Bolt qui attendent encore leur batterie soient rassurés, on continue... En même temps qu'on augmente la production à réparer les batteries, parce que j'ai des gens qui m'ont envoyé un courriel cette semaine disant « Hey, c'est bien beau tout ça, mais j'attends encore la batterie de mon Bolt 2020. » Oui, ça va venir. Puis je pense, en tout cas, si on veut garder la Bolt dans la famille des produits électriques de Chevrolet et qu'on annonce une Equinox à 35 000 $ il serait logique qu'on amène la Bolt, mettons, à 30 000 parce que là... Ils vendront plus de Bolt.
Ben non, ben
tout le monde va aller acheter un Equinox parce que t'as un meilleur véhicule, ben en fait, plus moderne, technologie Ultium, plus grand, à orientation familiale. Les gens vont dire, ben là, on va tout. Fait que je pense qu'ils auront pas le choix s'ils veulent continuer d'en vendre. La question est de savoir est-ce qu'ils vont être capables d'amener le prix à, mettons, 30 000. Je dis un chiffre au hasard.
En doublant presque la capacité.
La capacité, mais d'être encore rentable à ce prix-là. Ouais. Alors, on va voir. Autre nouvelle, puis Ford, ça concerne Ford. C'est assez intéressant. C'est pas la première fois que je vois cette idée-là.
Non, c'est pas la première fois, mais là, c'est...
Ça a l'air assez sérieux.
Ouais, Ford a breveté un coussin gonflable extérieur. On s'entend, la sécurité mobile, ça prend plusieurs formes, n'est-ce pas? Et pour protéger les occupants, ben, depuis des années, les constructeurs ont grandement mis sur la sécurité passive, c'est-à-dire l'équipement et les accessoires qui minimisent les dégâts une fois qu'une collision est survenue, par opposition évidemment à la sécurité active qui est comment éviter un accident.
Exact.
C'est pour ça qu'on a vu apparaître en fait des choses comme le coussin gonflable latéral pour la tête, pour les genoux, pour les bras, pour les épaules. On en a vu pour les occupants à l'arrière. On a vraiment essayé de mettre des coussins gonflables pas mal partout dans l'auto. Là, ce que Ford vient de demander au Bureau américain des inventions, c'est d'obtenir un brevet pour un coussin gonflable qui se trouve à l'extérieur du véhicule. Il serait logé à l'avant, sous la calandre, et il se déploierait entre la calandre et le pare-choc. Fait que la calandre se soulèverait, puis
donc
là, pouf, il y aurait un gros
coussin. On s'entend qu'on protège les piétons avec ça, là. C'est assez
l'idée, en fait, c'est d'absorber le plus d'énergie possible lors d'une collision frontale avec un autre véhicule et de la dissiper en faisant dégonfler le coussin en question.
C'est
un peu le prolongement de l'idée des châssis déformants, où on a vu beaucoup utiliser des matériaux de différentes densités tout le long de la carrosserie, en tout cas sous la carrosserie, pour que la déformation du véhicule pousse l'énergie d'une collision à l'extérieur vers, loin des occupants. Et c'est le même principe, mais là, dans un coussin gonflable. Donc, comme c'est juste de l'air dans une grosse toile, c'est un peu moins compliqué pour une vue de déformation. Ford pense que ce coussin-là pourrait être installé sur n'importe quel type de véhicule, d'ailleurs, qu'il s'agisse d'une berline, un VUS ou une camionnette. Il peut se déployer en entier en un dixième de seconde avant un éventuel impact. Donc, juste au moment où il y a une collision, pouf, il éclate.
Ah, après, c'est un peu tard.
Après, c'est comme point, point.
Boum,
voilà. Puis, je sais pas si t'as remarqué ça, mais depuis quelques semaines, tous les conducteurs, il y a de plus en plus de conducteurs qui se remettent à tapoter sur leur téléphone en conduisant, puis c'est dangereux, puis il y a beaucoup de distractions, puis la première chose qui arrive, c'est qu'on, ça fait une collision frontale. Ça me semble comme une solution assez intéressante à envisager. Ford ne dit pas à quel point la technologie, là, pourrait aider à réduire les conséquences d'une collision frontale, mais on peut trouver Tu l'as dit tout à l'heure, on peut trouver ailleurs dans l'industrie des statistiques qui semblent indiquer que Ford tient peut-être là une solution efficace pour réduire substantiellement les cas de blessures ou même de décès provoqués par des accidents frontaux. L'équipementier allemand ZF a lui aussi mis au point des coussins gonflables extérieurs qui s'installaient, dans son cas, sur le côté des véhicules, mais qui, selon le ZF, permettaient de réduire de 40% la gravité d'un impact.
Okay.
Donc, imaginons que c'est à peu près la même chose à l'avant du véhicule. Évidemment, il resterait seulement à espérer là, que le système ne fera pas éclater le coussin pour rien. On le sait, les systèmes d'alerte de collision frontale sont très nerveux, parfois même trop. Puis
oui, ils sont un peu intrusifs.
Ils affectent les freins quand on n'a pas nécessairement le goût.
Exact.
Et évidemment, si ça fait éclater un coussin devant le véhicule et que là, tout d'un coup, on ne voit plus rien puis on perd le contrôle, ben là, ça va produire l'effet inverse et ça va vraiment rendre cette technologie-là tout à fait caduque.
Tiens, pendant que tu es chez Ford, on reste chez Ford. Ford est accusé d'avoir utilisé de l'acier bon marché pour ses camions Super Duty.
Ah bon?
C'est une enquête. En fait, c'est un recours collectif qui est intenté par des propriétaires de camions Ford Super Duty qui accuse le constructeur de dissimulation frauduleuse, quand même, concernant l'intégrité de leur véhicule en cas de collision. Il y a une firme d'avocats américains, on sera pas surpris, qui ont pris la chose en main. En fait, selon le document déposé par le cabinet qui s'appelle Higgins Berman, On fait en sorte qu'on a réduit la qualité de l'acier dans les piliers B. Ça aurait permis d'économiser 20,86 $, c'est bien spécifié, et 86 par véhicule, et de réduire le coût d'outillage de plus d'$1 million. Donc, c'est de l'acier au bord qui serait 4 à 5 fois plus résistant que l'acier qu'elle a remplacé. Donc, on a changé la qualité de l'acier. En fait, ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu certains accidents où tu as des retournements, des capotages, et le toit s'est littéralement écrasé. En principe, le toit ne doit pas s'écraser, le toit doit résister. Bon, évidemment, si tu tombes en bas d'un précipice de 400 mètres, ouais, le toit va s'écraser. Là, il faut rester réaliste. Mais des tonneaux sur l'autoroute, le toit ne devrait pas s'écraser. Et on dit que depuis, c'est pas d'hier, là, depuis septembre 98, le montant A, qui est le montant devant le pare-brise en avant, a été réduit de 2,4 mm à 2,35 mm. Et à 2,2 mm par la suite, après 1999. Donc, on dit que même une réduction aussi faible peut faire en sorte qu'on peut avoir des conséquences importantes. Évidemment, là, on est en plein recours. Il n'y a pas de résultat, mais à considérer la quantité de véhicules Super Duty qu'on vend dans une année, ça pourrait coûter extrêmement cher aussi, à Ford. Ben oui. Alors, on a déposé ça. Donc, c'est présentement, là, on en parle au moment où on se parle. Donc ça, c'est quand même un dossier qui va être à suivre. Et autre dossier, tiens, puis je me pose la question.
Oh.
Qu'est-ce qui est arrivé avec les B4ZX ou les BZ4X? Moi, toujours mêlé dans le nom, c'est les BZ4X. Parce que début juin, rappelle-toi, Alain, il y a eu un rappel pour des problèmes d'écrou aux roues qui se desserraient quand on roulait. Ce qui pouvait occasionner la perte d'une roue.
Ben
on
oui.
s'entend que c'est un
Personne
peu malaisant.
Ça, non,
on veut pas ça. Et du moment que la sécurité est en jeu. Et là, Toyota a fait un rappel. Bon, on avait à peu près fabriqué 2700 modèles. On en avait vendu à peu près 260 aux États-Unis. On n'en avait pas encore vendu au Canada. Sauf que, bon, il y avait beaucoup de gens qui avaient donné un dépôt, qui attendaient leur véhicule. Et depuis juin, niette, rien. On n'a pas entendu parler. Puis bon, je sais pas toi là, mais il me semble qu'un problème de desserrement d'un écrou sur une roue, c'est pas un problème qui demande une étude de 4 mois puis de voir. Parce que là, rien, on n'a même pas. On dit qu'on est en train d'étudier le problème, c'est correct. Mais après 4 mois, il y a personne qui a dit.
Ok.
Serrer un tube fort. Changer. Je sais pas là. C'est pas un problème de batterie. Mm-hmm. C'est pas un problème électronique. C'est pas un problème de grande envergure. Là. C'est un problème d'une roue qui se desserre. Me semble, je sais pas là. Mettez du Loctite, serrer ça plus fort là. Je sais pas là. Je donne une solution, mais bon, je trouve ça curieux. Puis toi et moi, on a assisté au lancement de ce véhicule là. Et je le disais à la blague, mais c'était finalement sérieux à beaucoup d'amis que j'ai jamais vu une compagnie lancer un véhicule avec aussi peu de conviction.
Ouais, peut-être que ça cache autre chose.
Je commence à me poser des questions. Après 4 mois, je me dis, bon, si on n'a pas vraiment fait grand-chose, on va-tu faire quelque chose un moment donné? Parce que là, aux États-Unis, les 260 et quelques personnes qui l'avaient reçu, on leur a offert au mois d'août de racheter le véhicule carrément, de
dire, wow.
Voici un chèque, on s'excuse. C'est plutôt rare qu'une compagnie fait ça. On trouve toujours 40 000 raisons pour pas donner d'argent. Pour un boulon mal serré, on est toujours là. Est-ce que ça cache un problème plus grave et on veut pas nous en parler? En tout cas, je pose la question aujourd'hui.
C'est intriguant.
Je laisse ça dans les airs, comme on dit, mais on va investiguer auprès de Toyota. On va poser des questions, puis on va revenir avec ça. Donc, nous, on va à la pause. Et après la pause, on revient avec Pierre-Olivier, notre invité de la semaine.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, on est de retour avec notre invité de la semaine, en fait, qui est le chef de la technologie chez LEDAR Tech. Il s'agit de Monsieur Pierre-Olivier. Monsieur Olivier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, c'est gentil. La première question que je vous poserai tout simplement pour les auditeurs qui ne connaissent pas LEDAR Tech, qui est LEDAR Tech? C'est une compagnie québécoise, vous êtes à Québec, mais vous faites quoi exactement?
En fait, nous, on fait des solutions de perception pour des véhicules autonomes. Donc, vraiment, la détection et le traitement là, des données des capteurs pour rendre donner la vue finalement aux véhicules autonomes.
Et là, on regarde, parce que on a beaucoup parlé d'autonomie dans les véhicules. Ça a été le sujet de l'heure, je dirais, jusqu'à peu près au moment de la pandémie. On a mis du côté des constructeurs beaucoup d'emphase dans l'électrification des véhicules. On dépense en ce moment de véritables fortunes. Est-ce qu'on a un peu mis sur la voie de service l'autonomie? Ou vers quoi on s'en va? Est-ce que, parce que les gens disent, ah, l'autonomie, c'est encore loin. Puis en même temps, c'est pas si loin que ça. Expliquez-nous un peu le parallèle.
Ben, en fait, le parallèle, comme vous disiez, les manufacturiers automobiles ont mis beaucoup, beaucoup l'emphase, beaucoup d'investissements dans les dernières années. Puis il faut vraiment séparer deux segments. Donc vraiment, nous, on sépare ce qu'on appelle le véhicule de tourisme, donc le véhicule que nous, on, monsieur et madame, tout le monde possède. Puis le véhicule vraiment le robot taxi là ou le véhicule complètement autonome là qu'on voit
ben,
qu'on
comme
voit
les,
plus
on voit il y a le il y a Cruise là à San Francisco qui a même commencé Cruise, à faire des taxis autonomes
c'est
là
ça. Cruise à San Francisco, Waymo à Phoenix et ainsi de suite. Donc ça il y a des projets pilotes, mais ça vraiment le véhicule pleinement autonome c'est encore loin d'être mature là, c'est encore aujourd'hui effectivement ces véhicules-là roulent et puis conduisent des passagers sans pilote, mais ont besoin encore d'une équipe là, qui les babysit. Là.
Donc, exact. Corrigez-moi si je me trompe. J'ai parlé l'an dernier au Salon de la mobilité à Munich aux responsables de l'autonomie des véhicules chez Mercedes-Benz. Et ce monsieur-là, qui est un Camerounais, qui est absolument délicieux à parler, on a évidemment la langue en commun, mais il m'expliquait que l'Allemagne est le premier pays chez Mercedes où on a une autonomie de niveau 3 qui est implantée dans les véhicules avec toutes les responsabilités que ça implique. Est-ce qu'on est en chemin pour en avoir beaucoup d'autres de ces technologies-là où on est encore pratiquement au niveau 2 partout, là?
Ben, on est en chemin pour en avoir d'autres, mais évidemment, comme vous le soulevez aussi, il n'y a pas seulement des enjeux techniques, il y a également des enjeux normatifs. Là, donc, la raison pour laquelle Daimler a déployé en Allemagne en premier, évidemment, c'est chez eux. Mais aussi, ils ont développé vraiment là, le cadre normatif là, pour permettre la légalité de ces véhicules-là. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on passe du niveau 2 au niveau 3, c'est là où c'est plus le conducteur qui est vraiment en contrôle, c'est la voiture qui est pleinement en contrôle.
Oui, et donc, c'est le manufacturier qui est responsable en cas de pépin, ce n'est plus le conducteur.
En théorie, c'est le manufacturier. Évidemment, les manufacturiers ont été très prompts à dire qu'ils allaient prendre la responsabilité, ainsi de suite, mais il y a quand même un cadre normatif, et il y a un cadre aussi même au niveau de l'assurance. Donc, s'il y a un accident, justement, qui est responsable, c'est mon assurance auto en tant que propriétaire, c'est l'assurance du manufacturier. Donc, tout ça, ça doit être vraiment cadré là, dans les lois. Puis, alors que pour les robots taxis, c'était beaucoup plus simple, c'était des projets pilotes avec des flottes de véhicules et puis donc des ententes à la pièce.
C'est drôle parce que quand on parle de véhicules électriques, oui, ben on parle de ça aussi, mais de véhicules autonomes, au Canada, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de projets pilotes, mais il y en a un, entre autres, au niveau des camions, je pense que c'est Canadian Tire en Ontario qui fait un truc avec des camions de livraison entre entrepôts, parce que, si j'ai bien compris, ce qui est plus simple, puis ça tombe un peu sous le sens, c'est de faire des trajets qui sont attendus d'avance et qui sont répétitifs pour que la technologie se renforce. Est-ce qu'on va voir émerger cette technologie-là au Canada comme on le voit un petit peu ailleurs, ou est-ce que c'est encore parce qu'il y a l'hiver et qu'il y a plein de raisons, ça va prendre plus de temps de l'avoir chez nous?
Ben, on le voit, puis on va le voir, puis il y a d'ailleurs plusieurs compagnies canadiennes là, qui œuvrent dans le domaine aussi. En fait, c'est un cas d'usage. Comme vous disiez, le cas peut être plus simple parce que les trajets peuvent être connus, mais aussi, étant donné qu'on remplace un conducteur, on peut se permettre, par exemple, de faire de la téléopération. Donc, vraiment ces projets-là aujourd'hui, généralement, utilisent la téléopération. Donc, un pilote qui est à distance, mais connecté en temps réel avec le véhicule, puis qui peut intervenir au besoin, puis aussi, on s'entend, une complexité du camionnage, c'est les manœuvres, justement, là, dans les villes ou dans les où souvent on les voit un petit peu faire des miracles. Mm-hmm. Donc à ce moment-là, ben le téléopérateur, lui, peut se connecter sur vraiment les capteurs qui sont déjà évidemment tout autour sur le partout autour du véhicule, et puis à ce moment-là, prendre le contrôle et naviguer là, les embûches là. Donc ça simplifie un petit peu la donne. Puis en même temps, ben on s'entend là, comme le transport lourd, ben c'est quand même une portion non négligeable des accidents là, donc ça contribue mm-hmm. activement aussi là, à la sécurité routière.
Ouais, puis j'imagine que il y a un manque de main d'œuvre aussi criant dans le domaine du camionnage, comme il n'y a pas besoin physiquement d'avoir quelqu'un assis sur le banc du camion, ça peut aussi aider la cause de plusieurs compagnies. Là.
Absolument, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir justement un conducteur, un pilote dans un bureau à Montréal avec des écrans que sur la route là, et puis donc c'est effectivement ça crée d'autres opportunités à ce niveau là.
Là, une question qui revient souvent de la part des auditeurs, c'est à quand est-ce qu'on peut de manière réaliste prévoir des véhicules autonomes, disons d'un niveau 3 et supérieur sur des routes au Canada?
Il y a plusieurs manufacturiers, dont plusieurs avec qui nous-mêmes on travaille, là, qui travaillent sur des projets là, pour des mises en, dans ce qu'on appelle production en série, là, vers 2025-2026. Donc, on parle de point d'un avenir pas si lointain.
OK, 2025-26, pas très loin. Et qu'est-ce qui manque sur nos routes? Parce que vous parliez tantôt de capteurs. Je pense que ça, c'est important. Il faut que tout l'affichage aussi soit fait pour être reconnaissable par les systèmes, parce que bon, évidemment, on respecte toujours les limites de vitesse indiquées, mais il faut que la technologie soit capable de la lire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit améliorer ou ajouter qu'on n'a pas en ce moment sur notre réseau routier?
En effet, très peu, parce que l'approche qui a été prise par les manufacturiers, si vous vous rappelez, à la fin des années vers 2007-2008, à la suite là, du Grand Challenge et puis tous ces projets-là, l'industrie croyait que les véhicules autonomes allaient se déployer très, très, très rapidement. C'est pour ça, comme vous disiez, que l'impression que les gens ont, c'est que l'industrie est en retard. En vérité, l'industrie avait sous-estimé la complexité, mais des effets de ça, c'est que les technologies ont été développées pour pouvoir opérer sur des infrastructures qui sont pas spécifiques aux véhicules autonomes. Donc, les véhicules autonomes, même aujourd'hui, les véhicules de niveau 2, sont capables de lire les panneaux, sont capables de reconnaître les feux de circulation, ainsi de suite. Donc, ont pas besoin d'infrastructures, l'infrastructure qu'on appelle V2X, Vehicle to Everything, est pas nécessaire. Évidemment, quand elle est disponible, c'est tant mieux. Les véhicules peuvent en tirer avantage, mais c'est pas un prérequis.
C'est vrai que dans l'industrie, on a fait plein de promesses dans les dernières années. Je pense que c'est le PDG de Ford à l'époque qui disait qu'en 2019, il allait mettre des véhicules entièrement autonomes sur la route. Ça fait encore déjà, ça fait pas loin de 4 ans, en fait, que
ça fait passer. Il y a eu un grand coup qui s'est donné. Moi, je me rappelle, je suis allé à San Francisco essayer un prototype Mercedes mm-hmm. où on a, dans un environnement fermé, on n'était pas sur une route publique, c'était un ancien aéroport militaire abandonné, et on avait fait un trajet. Et on parlait avec l'ingénieur qui nous parlait du trajet assis autour d'une table pendant que le véhicule roulait. Mm-hmm. Puis ça fonctionnait. Puis là, bon, évidemment, on a beaucoup misé sur l'électrique. Mais je pense qu'on peut pas dissocier les deux, Monsieur Olivier, si je me trompe. L'électrique est assez étroitement reliée à l'autonomie aussi.
Et étroitement relié parce que ça ouvre aussi d'autres opportunités. Donc, dans l'industrie, on parle en anglais, là, ils parlent de CASE, là, donc Connected Autonomous Shared and Electrified. Mm-hmm. Donc, vraiment, pour décrire là, cette mouvance-là, parce qu'évidemment, à partir du moment où les véhicules autonomes sont aussi pleinement autonomes sont aussi électriques, ben, les services, là, par exemple, de venir chercher quelqu'un à la porte et puis de l'amener au travail et puis ainsi de suite, mais sont beaucoup plus faciles parce que l'infrastructure de recharge est plus facile à automatiser là, que l'infrastructure là, pour l'essence.
Je pense que Uber même a prévu qu'en 2030, tous ces véhicules seraient électriques. Je pense qu'on fait un pas dans cette direction-là. Une des promesses qui a toujours été faite pour expliquer cette avancée, ou en tout cas cette démarche-là de faire des véhicules autonomes et de les mettre en marché le plus vite possible, c'est qu'on vise une espèce d'univers zéro accident. On dit souvent, on veut que les routes soient libres d'accidents. Puis on donne un horizon 2030-2040. Est-ce que c'est toujours la cible? Est-ce que c'est réaliste d'imaginer qu'un jour, on va avoir un réseau de transport où, justement, il n'y aura à peu près pas d'accident?
Ben, est-ce que c'est réaliste d'avoir zéro accident? Je pense que c'est peut-être...
C'est un peu utopique, là.
Mais oui. je pense qu'on peut quand même faire beaucoup mieux, parce qu'aujourd'hui, par le monde, il se tue à environ quoi, 1 300 000 personnes par année. Donc,
si on pouvait juste couper de moitié, ça serait déjà beau.
Ben, c'est une des guerres les plus mortelles. L'automobile, c'est un peu niaiseux à dire, mais c'est un enjeu qu'on sous-évalue souvent, là, effectivement.
Oui, puis effectivement, le coût matériel aussi, le coût économique de ces, les accidents et ainsi de suite. Et juste au Canada, là, c'est des milliards de dollars. Là,
exact.
Si on peut diminuer ça, ben, il y a une opportunité là.
Ben écoutez, merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Olivier. C'était très édifiant, cette conversation. Puis on va continuer de suivre ça, parce que moi, j'ai retenu 2025-26. On va voir des choses.
On va se reparler d'ici 3 ans.
Oui, on va se reparler d'ici ce temps-là, certain. Alors, un grand merci à vous.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée. Alors, c'est Monsieur Pierre Olivier qui est chef de la technologie chez LEDartech à Québec.
Ouais.
Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers, notre chronique Écoloto.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, avant d'aller à nos essais routiers, vous parler de l'émission, évidemment, « Ça tient la route », 3e saison. Si vous voulez nous écouter, il y a les plateformes Google, Spotify, Apple et compagnie qui sont là pour vous. Vous pouvez aller aussi sur le site 98.5 FM à Montréal, dans la section « Balado ».
Ouais.
On est là chaque semaine. On fait une mise à jour quelque part vers le milieu, fin de la semaine, ou sur annuelauto.ca, le site de l'annuel de l'automobile, d'ailleurs, qui va avoir tous les textes 2021-22 bientôt. On est en train de finir ça, qu'on va ajouter déjà au texte de 2004 à 2020. Ben, ça va jusqu'à 22, dans le 9 et dans l'occasion. Alors, vous pouvez aller voir ça. Et c'est tout à fait gratuit, évidemment. Pour ce qui est de notre chronique écolo auto de la semaine, on avait parlé, Alain, il y a quelques semaines, des meilleures autonomies des véhicules électriques.
Ouais.
Ben là, on récidive en parlant des 10 véhicules hybrides branchables 2023 avec la meilleure autonomie, parce qu'il semble y avoir une espèce de recrudescence, on voit...
Je vais demander, il y en a-tu 10, mais effectivement...
Ben, il y en a... Ah, troupe!
Les 10 meilleurs sont les 10 seuls, hein?
Les 10 seuls, mais il y a... On voit, là, pour certains modèles, qu'on a augmenté la taille des batteries.
Mm-hmm.
En fait, c'est que souvent, physiquement, les batteries ne prennent pas plus d'espace, mais avec la densification qu'on a réussi à faire au niveau des batteries, on arrive à tirer un meilleur kilométrage. Vois-tu, l'exemple, le premier, c'est... Le Range Rover PHEV 2023. Elle me dit que c'est pas à portée de tout le monde.
Non.
Mais dans le modèle Range Rover et Range Rover Sport, on a 77 km estimés au niveau de l'autonomie des batteries, ce qui est tout à fait... qui est pas pire, disons-le.
Pour ce véhicule-là.
Il y a la Licorne. Vous connaissez la Licorne, la Toyota RAV4 Prime?
La Licorne.
Dont on entend parler, mais qu'on voit à peu près jamais.
C'est vrai, ça y va bien.
On est à 68 km, donc ça reste la même chose. Modèle que j'ai roulé, que je vais rouler bientôt, le Mitsubishi Outlander PHEV.
Oui.
On a finalement la même batterie qu'on a en Europe depuis quelques années chez nous. Et on va avoir autour de 65 km annoncés d'autonomie. Un modèle que j'ai roulé récemment, le S60 Recharge, qui est à 64 km. J'ai fait plus du 58-60. Le 64, je suis pas arrivé à l'appuyer. Mais quand même, c'est mieux que les 39 km qu'on avait auparavant. On a 61 km pour le Ford Escape. Même chose pour le NX450H chez Lexus, qui est en fait la même batterie que le RAV4 Prime qu'on a envoyé chez Lexus. Et on a aussi le S90 Recharge. Vois-tu qu'on annonce à 61, puis lui, j'en ai fait 70. Alors,
bonne journée.
J'étais l'été, il faisait beau, mais j'ai pu le tester. Et on a comme ça là une liste de à peu près tout ce qui roule. On va jusqu'à des modèles comme le Santa Fe qui est à 50 km cette année pour le PHEV, le Pacifica qui reste autour de 50 km et des modèles, on va jusqu'à le Wrangler, le 4xe qui est à 34 km et des BMW qui sont encore, dans bien des cas, arrêtés autour de 30 km, ouais, qui, à mon avis, est d'une profonde inutilité.
Exact.
Mais si vous voulez avoir plus de détails, ecoloauto.com, vous allez voir l'article. On va le mettre demain sur annuelauto.ca.
Ça le dit pas, mais ça donne un bon indicateur de comment la Chevrolet Volt est un petit peu en avance de son temps, finalement.
Ah ben oui! Parce écoute, on parlait de 81, 82 km, comme la Clarity.
Exact. Oui,
chez
c'est
Honda,
vrai. Ben
qui
oui.
avait 80, moi, j'avais fait 85 km en Arizona au lancement. Donc, c'était tout à fait honnête. Alors, mm-hmm. on vous invite à aller voir ça. Puis tiens, pendant qu'on est là, on parle de ces routiers. Parle-nous donc de ton Cadillac, toi, cette semaine.
Oui, monsieur, un Cadillac XT6. Ah, écoute, on le sait, il y a beaucoup de VUS sur les routes. Évidemment, certains vont dire qu'il y en a trop. Mais peu importe. Le succès...
Il y en a beaucoup.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Le succès des VUS au Canada, là, c'est un peu l'histoire, en fait, la fameuse histoire de la saucisse high grade. Les gens les achètent parce que les constructeurs en ont plein à offrir, puis les constructeurs continuent d'avoir plein de modèles à offrir parce que les gens en achètent beaucoup. Un détail qu'on ne réalise pas toujours, c'est que le segment de marché qui, au Canada, connaît ces jours-ci le plus de succès n'est pas le segment des petits VUS, ni même celui des VUS familiaux bon marché, disons, mais le créneau des VUS de luxe.
Donc oui, qui semble pas être affecté par les aléas de l'économie. Hein. On dirait que tout ce qui est luxe, que ce soit voiture, VUS, camion, ça demeure stable, même quand le dollar est bas, le dollar est haut, les taux d'intérêt sont bas, les taux d'intérêt sont hauts. Tu regardes les chiffres de vente, puis c'est toujours stable.
Ils sont capables de bien s'en tirer. Puis bon, évidemment, les plus populaires sont pas les gros VUS de luxe vendus qui n'ont aucun bon sens en termes de hors de prix, là. Mais les VUS d'entrée des milieux de gamme font bien et c'est pour ça que la cour des concessionnaires de voitures de luxe sont remplis à craquer de VUS. Et Cadillac, évidemment, ne fait pas exception. Sauf que Cadillac, comme Infiniti d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire comme ça, a un drôle de problème. Elle a décidé de nommer tous ses VUS sauf l'Escalade avec une combinaison de lettres et de chiffres qui veut pas grandir dans la tête de l'acheteur moyen. Fait qu'on on se mêle rapidement, surtout que les VUS de Cadillac, quand on les regarde, ils sont à peu près tous identiques. À part leur dimension, bien sûr, mais ils ont à peu près tous la même gueule. Alors, on finit rapidement par être tout mêlé quand on fait le catalogue. Le XT6, c'est le véhicule que j'ai essayé il y a quelques jours. Justement, pour essayer de comprendre la stratégie de Cadillac dans le marché des VUS, ben, il y a aussi bien l'air d'un Escalade que d'un XT4, en fin de compte. Et justement, je pense que c'est un peu un hybride entre les deux et je pense que c'était le but recherché avec ce véhicule-là. C'est un VUS de format intermédiaire à l'américaine, là, donc un peu plus gros pour nous que ce qu'on considérerait un intermédiaire si on avait à déterminer, qui compte trois rangées de sièges à bord. On peut facilement accueillir 6 ou 7 passagers sans trop de soucis, même si en réalité, bon, la plupart des acheteurs vont rarement asseoir plus de 4 personnes à bord.
C'est vrai.
C'est aussi un véhicule qui essaie d'être plutôt ingénieux côté mécanique, et je mets des guillemets là-dessus, étant donné que son V6 sur les modèles plus équipés est conçu de manière à pouvoir désactiver 2 de ses cylindres sous certaines conditions, ce qui lui permet de se comporter comme un 4 cylindres. Et évidemment, en théorie, là, de consommer moins de carburant dans ces conditions-là. Le problème, c'est que les conditions en question, j'ai aucune idée quand est-ce qu'on les atteint, parce que c'est un peu aléatoire. Là.
En fait, on les atteint à peu près jamais. Là.
Ben, c'est sur autoroute à basse vitesse, donc c'est un contexte dans lequel on n'est jamais à 80 km/h sur une longue distance sur l'autoroute, sauf quand il y a bien de la circulation. Et là, c'est souvent stop and go. Donc, c'est rare qu'on arrive à atteindre ça. Le V6 en question, il fait 3,6 litres. Il équipe les versions les plus huppées du XT6. Le modèle de base a droit à un 4 cylindres turbo de 2 litres. Dans tous les cas, là, avant de parler de puissance, il faut préciser un truc assez important. Le XT6 est vendu au prix d'un VUS de luxe et de grand luxe. Ça démarre à 62 000 $ et ça grimpe vite. Le modèle que j'ai essayé là avec le V6, son prix de détail incluant très peu d'options, était de 76 000 $.
Ouais.
À ce prix-là, à mon avis, Cadillac fait fausse route, je vous le dis tout de suite. Là, c'est tout simplement trop cher. Surtout que la consommation, qui aurait pu être un élément distinctif, ne l'est pas du tout. La consommation moyenne qui oscillait dans mon cas entre 12 et 14 litres au 100 km, il n'y a rien là. Aussi, à ce prix-là, aussi bien aller chez Lexus et opter pour un RX qui, en plus, est tout nouveau et fait drôlement mieux côté
et va être beaucoup plus fiable aussi.
Excellent. Oui, tu fais bien de le dire. C'est
ça,
très
c'est
vrai.
Clair.
En fait, et même quand on conduit le XT6, on a l'impression que le prix n'est pas justifié du tout. Le véhicule est confortable. Bon, évidemment, il est très bien sonorisé. Rien à redire là-dessus. De la place pour les jambes partout, même à l'arrière. C'est pas mal moins rigolo. Par contre, dans le coffre, où l'espace est tronqué par la banquette additionnelle, mais ça, ouais, c'est typique de ce genre de véhicule-là. Ce qui déçoit vraiment, c'est qu'on a à peu près pas l'impression de prendre place à bord d'un véhicule Cadillac.
Voilà, ça, moi, là, tu viens de mettre le doigt sur le bobo parce que tu as beaucoup de pièces qui sont empruntées à Chevrolet.
Exact.
Y compris le moteur.
Ben voilà.
T'achètes une Cadillac, t'as pas envie d'avoir un Chevrolet ni un Buick, t'as envie d'avoir un Cadillac et on demande le prix d'un Cadillac. Tu sais, si on t'avait amené un Cadillac à rabais, tu dis, bon, c'est correct, je vais vivre avec le moteur Chevrolet, moi vivre avec les boutons et les commandes Chevrolet, parce que dans le fond, je paye juste un peu plus cher. Mais là, on te demande le prix d'un Cadillac, Et regarde l'exemple dans le lyrique. Mm-hmm. Et les ingénieurs à la présentation qu'on a eue aux États-Unis ont pris la peine de nous dire qu'on n'avait aucune pièce commune avec d'autres produits GM.
Oui.
Alors, probablement que le message est passé
quelque part.
Exact. Parce que ça, c'est le reproche qu'on fait. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle les XT6 ramassent la poussière chez les concessionnaires en ce moment.
Exactement. Puis, surtout quand, si on ajoute à ça le fait que, tu sais, le système multimédia s'est rendu des grands écrans sur lesquels on, automatiquement, on active CarPlay ou Android Auto. Il n'y a plus de saveur distincte non plus, même au niveau de l'interface. Non. Donc, que ce soit un Chevrolet, un Cadillac ou même un GMC, on voit pas la différence.
Pour quelques milliers de dollars de plus, les gens vont aller chercher un Escalade, vont aller chercher un GMC, un Denali, un Yukon Denali, quelque chose comme ça. Parce que dans le fond, là tu as un produit qui est beaucoup plus distinctif dans sa présentation et dans sa proposition aussi.
Exactement. Puis, tout ça étant dit, évidemment, vous aurez compris que la conclusion se fait d'elle-même. Tant qu'à payer 76 000 $ pour un VUS signé Cadillac, non, parce qu'il n'a pas la saveur, aussi bien attendre puis opter pour le Lyriq, comme tu l'as dit, parce que c'est un peu plus petit.
Oui.
Quand même assez logeable, mais tout électrique.
Moins cher.
Et toute une petite affaire moins chère, effectivement.
70 000, absolument.
Et qui promet d'être une sacrée belle pièce de haute technologie. Donc, ce qui est généralement l'apanage des marques de luxe, pour le dire de cette façon-là.
Donc, le vote d'Alain cette semaine, c'est point, point, point.
Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? C'est non. Ça arrive des fois, que voulez-vous.
Alors, de mon côté, écoute, j'étais complètement ailleurs. Mm-hmm. J'étais du côté de Jaguar avec la F-Type. La F-Type qui date, en fait, dans sa version actuelle, à peu près, je pense que c'est 2014 ou 2. En fait, c'est arrivé en 14 comme modèle 15. Là, maintenant, c'est pas compliqué, il reste juste des V8. On a eu des V6 à une certaine époque. Là, il reste juste des V8 en version méchante ou très méchante. Parce que les deux ont un compresseur volumétrique. Une version est un peu dégonflée par rapport à l'autre. Moi, j'avais la version d'entrée de gamme, appelons-la comme ça, avec un moteur V8 5 litres compressé de 444 chevaux. Certains vont dire, ah, il me semble 444 chevaux. C'est un Mustang avec un V8 ordinaire qui a rien, qui a pas d'artifice, qui a plus de chevaux que ça. C'est assez, c'est pas gros, ça, là. On parle d'un concurrent à une Porsche 911. Mettons, moi, j'avais la version coupée. Bon, il faut être prêt à mettre de l'essence parce que cette chose roule au gaz. Oui. Mesdames, messieurs, j'ai à date, cette semaine, je me tiens autour de 15, là. 15, 1. Et je ne me suis pas excité, là. Je suis resté
dans
des routes secondaires
là,
un peu. Non, c'est un deux places.
Ça s'amortit pas, là.
Bon, il est magnifique. Ça, on va commencer avec les fleurs, là. C'est un véhicule qui est vraiment magnifique. Même beaucoup de gens pensaient que je roulais en Aston Martin, pour vous dire un peu, là. On est capable de confondre. Surtout le soir, là, tu sais, les formes sont un petit peu moins définies. Mais ce véhicule-là n'a pas vieilli. D'un Toyota.
Ben, il laissait présager une espèce de renouveau dans le design au sens général chez Jaguar. On l'a pas vraiment vu finalement, mais la F-Type garde encore un sacré look.
Ben, en fait, tu sais, quand un véhicule est bien né, il n'y a pas besoin de beaucoup de changements. Il reste extrêmement efficace, extrêmement joli. Bon, on s'entend que le modèle de base commence autour de 86 000 $ et là, évidemment, comme tous les modèles de luxe, les options s'accumulent rapidement, ce qui fait en sorte qu'on va frôler les 100 000 $ sans trop faire d'efforts. Vous avez un son de moteur. On a beaucoup travaillé le son du moteur du côté de Jaguar. Là, il y a une espèce de grondement. Et on peut même mettre en mode sport. Il y a un petit drapeau à demi. C'est assez clair qu'on est en mode sport.
C'est vrai.
Et là, ça devient vraiment... ça gronde. Là. Mm-hmm. Si vous voulez réveiller vos voisins le soir, c'est le véhicule idéal. Mais je dirais pour quelqu'un qui ne veut pas aller du côté allemand, parce que la concurrence est essentiellement allemande. On peut aller du côté de BMW avec l'équivalent d'un modèle comme la Z4.
Ouais.
On peut aller à Porsche 718. On peut aller chez la SLC maintenant, chez Mercedes. Mais il y a un trait de caractère, il y a un côté très anglais. Et ça, les Anglais, on la touche, on le chic. D'être capable de faire des intérieurs à la fois, moi j'appelle ça néo-moderne, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite touche classique, une petite touche d'élégance dans la qualité du cuir, dans la Oui, effectivement, il y a une âme dans cette voiture-là quand on entre dedans. Bon, évidemment, là, le côté moins intéressant, c'est la fiabilité. chez Jaguar, ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Et dans les 30 ans de métier, les seuls véhicules avec lesquels j'ai eu des problèmes durant la semaine d'essai, parce qu'on s'entend, là, les journalistes, on fait toujours très attention que la voiture soit en ordre, qu'elle soit... Ça a toujours été des Jaguars. J'ai une Jaguar qui est jamais partie. C'est un camion une remorqueuse qui est venue la chercher, l'a ramenée à Toronto. Et à ce jour, je ne sais absolument pas ce qui est arrivé. J'ai un collègue, notre ami Jacques D. Lui, le véhicule, il s'est vidé d'huile dans le cours, littéralement. Moi, j'en ai eu un autre que le toit ouvrant ne fermait plus. Une journée de pluie, c'est extrêmement drôle. Ben oui. Parce que heureusement, j'arrivais à la maison, mais j'ai rentré ça dans le garage. J'ai eu le bonheur d'avoir un garage. J'en ai eu un autre que dans le modèle que j'ai en ce moment, le système d'aération fait comme lever par, je sais pas si c'est mécanique ou hydraulique, mais il se soulève quand on part l'auto. Moi, j'en ai eu un qui se soulevait pas. Ah. Alors, il a fallu retourner tout ça. Donc, plein de petites anomalies comme ça. Et c'est un trait de caractère des voitures anglaises. Tous ceux qui ont eu des voitures anglaises dans leur vie, d'aussi loin que les années 40-50, vous avez eu des MG, des Triumph, des Sunbeam, des gens qui ont eu des Jensen, si on recule, des Jaguar, Aston Martin. Bon, nommez-les. C'est des voitures mécaniquement qui sont assez capricieuses. Donc ça, il faut être capable de vivre avec. Mais si vous y allez par le style, par le look, vous avez quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que j'aurais ça avant d'avoir une Porsche? Non. À moins que je fasse mais extrêmement peu de millage.
Comment j'ai arrêté d'écouter la 718 une fois que tu as dit ça? Ouais, c'est là que j'irais. Dans ce créneau-là, là?
Oui, oui. Les gens qui me connaissent savent que j'ai probablement une voiture. Excusez, on m'appelle. je vais me rappeler. J'ai une Porsche Boxster S. Mm-hmm. Donc, je suis assez bien placé pour en parler. C'est une voiture avec lequel j'ai eu zéro problème. Ça fait 7 ans que je l'ai. Je ne pense pas que j'aurais un aussi bon dossier avec une Jaguar. Mais cela dit, oui, c'est intéressant. C'est très sexy. C'est une voiture qui va vous donner beaucoup de plaisir.
Est-ce qu'elle a encore la boîte de transmission en forme de J?
Non, là c'est simplement une petite boîte, on appuie et tout est là. Alors donc vous avez quand même les belles caractéristiques. Ça vient aussi en version décapotable.
Si on a une version décapotable également.
Et le système multimédia. Non, mais là, honnêtement, c'est beaucoup mieux. Alors, on s'est mis à jour de ce côté-là. Donc, est-ce que je la recommande? Ça sera un oui.
Oh! Ça dépend de votre goût de réparer les choses.
Si vous faites pas beaucoup de kilométrage, que vous connaissez un bon mécanicien, peut-être, mais il est clair que vous allez mettre des sous là-dedans, soyez-en convaincus. Alors voilà, Alain, ça complète notre émission cette semaine. La semaine prochaine, on va peut-être parler de... J'ai un Chevrolet Silverado, un GMC Sierra Ultimate aussi qui s'en vient à l'essai. On pourra parler de ça. Et évidemment, on va avoir des invités avec beaucoup d'intérêt, comme à chaque semaine. Merci à Claude Hébert derrière la console. On se parle, nous, la semaine prochaine. Bonne route.
Bye-bye. Bye.
C'est 23.